Il y a quelques années, je me trouvais à Marseille, à l'aéroport, avec deux de mes amis de l'Université Laval. On était en direction d'Arles, où on exposait tous les trois. Et on avait raté l'avion Paris-Marseille, de sorte qu'il a fallu attendre le premier vol disponible en direction de Marseille. Un petit avion occupé, on aurait dit seulement par des Français, ce qui me semble en tout cas. Puis finalement arrivé avec plusieurs heures de retard, ben, on était les trois seuls passagers à prendre la navette entre l'aéroport et la gare ferroviaire. La navette, c'était un de ces petits minibus typiques, bruyants et puant le diesel. Vous savez, l'odeur qui nous atteint sitôt qu'on débarque de l'avion en Europe et qui vous avertit finalement que vous n'êtes plus en Amérique. Le minibus était propre, si on considère le nombre de passagers qui devaient l'emprunter à chaque jour. Ça restait quand même un autobus où vous faites attention, où vous mettez les mains et où vous asseyez les fesses serrées, puis vous essayez de pas toucher à quoi que ce soit. Et si vous êtes obligé, ben, vous essayez de pas mettre votre main à la bouche après. Le chauffeur était aussi typique que son véhicule. Très coloré lui aussi, souriant. Il portait une grande tuque en laine, du genre de celle que portent les Noirs américains en plein mois de mai. Très coloré. Il avait attaché une radio portative, une petite radio portative, probablement la sienne, bien attachée avec du ruban gommé autour d'un des poteaux chromés là, qui entourait son poste de conduite. Marseille-Saint-Charles, il y en a pour quelques minutes, qui nous dit avec son accent nord-africain. Il met la radio, puis à peine si on avait posé nos valises par terre, avant même qu'on soit assis, le minibus roulait déjà. La radio jouait une chanson que j'ai toujours appelée « Une chanson douce que me chantait ma maman », chantée par Henri Salvador. En fait, le vrai titre, c'est « Le loup, la biche et le chevalier ». C'est une chanson que ma mère me chantait quand j'étais tout petit, une chanson qui toujours me fait penser à elle. Ma mère était ce genre de mère possédée par un amour incontournable, une espèce de paquebot géant qui traverse votre vie, qui garde encore même, je dirais, 40 ans après sa mort, une certaine autorité affectueuse, mais une autorité sur son petit garçon de 58 ans. J'ai pas de honte à l'avouer aujourd'hui, surtout après que j'ai découvert chez un de mes amis écrivains la même emprise posthume d'une mère aimante qui, de son vivant, sans le dire, sans le vouloir, sans même le savoir, retenait son fils de traiter de certains sujets. En fait, c'est lui qui s'empêchait, mais voilà. Le genre de mère amoureuse qui, même après qu'elle soit disparue, exerce toujours une espèce de censure rétrospective hein, qui vous interdit tout un pan de votre imaginaire. Un peu comme après la mort de quelqu'un qu'on a aimé, on laisse sa chambre telle qu'il l'a laissée. On n'ose pas déplacer aucun objet, ni ouvrir aucun tiroir. Ou comme on laisse déborder la rocaille qu'elle avait si bien entretenue de son vivant, sans intervenir, sans retouche, de peur justement que toute retouche à son travail n'apparaisse finalement que comme une infidélité. Le chauffeur a monté le son de la radio, puis il a commencé à accompagner Henri Salvador avec son accent maghrébin. Quand il m'a entendu chanter moi aussi, il s'est retourné surpris. Là, j'ai changé de banquette, je me suis rapproché de lui et de sa radio. J'avais oublié presque toutes les paroles, mais lui, il les connaissait. Il détournait la tête de temps en temps en chantant. À un moment, il lâche son volant d'une main, puis il me saisit l'avant-bras chaleureusement, puis il me dit « Alors là, vous, monsieur, vous n'êtes pas français. Ça s'entend. Vous venez de quel pays? Du Québec. Ah, du Canada. On chante cette chanson-là au Canada. Ma mère me la chantait. À moi aussi, à Alger.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup.
On a repris la chanson avec encore plus de cœur pendant quelques secondes. Il s'est retourné vers moi encore. Il me souriait d'une manière affectueuse, quasiment fraternelle. Il devait avoir une vingtaine d'années de moins que moi. C'est drôle. La même chanson. Salvador, Québec, Alger, Marseille. Je m'étais fait un ami. Je lui souris, moi aussi. Il a lâché son volant puis m'a tendu la main. On est arrivé. Mes amis et moi, on est descendus du bus puis on a repris nos bagages. Le minibus est reparti. Il a fait le tour du parking. Et juste comme j'approchais des portes tournantes de la gare, je me suis retourné et je l'ai vu qui repassait dans l'autre sens. Mon ami a klaxonné comme un malade en faisant des grands gestes avec ses bras. De toute évidence, il avait fait un détour pour se rapprocher. On a échangé un dernier sourire. J'ai regardé le minibus disparaître dans les rues de Marseille en laissant de la fumée, une odeur, un souvenir, un ami. Un ami de l'amitié la plus brève. Quand il m'arrive maintenant d'entendre à la radio une chanson douce que me chantait ma maman, je pense toujours à ma mère, mais aussi maintenant, je pense à mon ami l'Algérien. J'aimerais ça savoir si lui et sa mère existent toujours. J'aimerais savoir qu'elle vit à Marseille, près de lui, ou qu'il lui rend visite à Alger et qu'il lui a raconté notre rencontre. Peut-être un jour aussi, mon ami va avoir comme moi des petits-enfants à qui il va chanter une chanson douce que me chantait ma maman.
Une chanson douce que me chantait ma maman.
Mon ami Dick, même s'il a vécu les 30 dernières années à West Palm Beach, en Floride, c'est toujours bien pas de sa faute s'il était gérontologue, et que ses vieux clients juifs étaient tous installés à West Palm Beach, et malgré qu'il ait passé plusieurs années en France, ça c'est bien lui, c'est ça, aller étudier la médecine en français, lui, un Américain, à Tours, voulez-vous bien me dire, et à Québec aussi. En plus, il avait connu sa femme Ursula en France. Elle était britannique, même qu'elle a connu les Beatles quand elle était waitress à Liverpool, même qu'elle a renversé une bière sur l'entrejambe de Ringo Starr, puis a dit « c'est pas grave, elle est tiède ». La bière, elle voulait dire. Et après ça, elles sont venues ici, elle enseignait l'anglais à Anne Hébert, pas à l'auteur, là, à l'école Anne Hébert, et mon ami, lui, travaillait au Jeff, à l'hôpital. Malgré tout ça, il est toujours resté le New-Yorkais que j'ai connu, juif New-Yorkais, plus drôle que Woody Allen, sans la clarinette. Dick, lui, jouait plutôt du bistouri, parce qu'il était aussi chirurgien. Et demandez-moi pas de répéter ici les histoires de salle d'opération qu'il m'a racontées, ce serait indécent. Autant pour lui que pour ses clients. Non, je vais plutôt vous raconter sa dernière blague, parce qu'il est mort l'été dernier de sclérose en plaques. Deux jours avant sa mort, il a réuni sa femme et ses enfants autour de son lit d'hôpital qu'il avait fait installer dans son salon devant un équipement haut de gamme de cinéma maison sur lequel il regardait les cassettes de Seinfeld que sa femme Ursula avait enregistrées pour lui. Il a dit « Chers enfants, très chère Ursula, » il parlait comme ça, « vous voici réunis autour du lit d'hôpital que j'ai fait installer dans mon salon devant un équipement haut de gamme de cinéma à maison sur lequel je regarde des cassettes de Seinfeld qu'Ursula a enregistrées pour moi. Ne soyez pas tristes. Sachez cependant que le temps est venu, je vais mourir, » et il était médecin, il savait de quoi il parlait, « je vais mourir d'ici quelques jours car je suis au bout de mon rouleau et je suis aussi au bout de mon compte en banque parce que le lit d'hôpital que j'ai fait installer dans mon salon devant un équipement haut de gamme de cinéma maison sur lequel je regarde des cassettes de Seinfeld qu'Ursula a enregistrées pour moi m'a coûté la peau des fesses qui sont par ailleurs, pour votre information, atteintes de plaies de lit d'hôpital que j'ai fait installer. Si vous permettez, je vais suspendre la blague ici parce que vous allez comprendre qu'on n'en sortira jamais, mes jours étant pour ainsi dire comptés. Vous devez donc vous préparer à des journées difficiles. D'abord, il va y avoir ma mort, qui n'est pas en soi ma meilleure blague. Mais le pire sera à venir. Vous allez avoir à subir toutes les cérémonies convenues dans de telles circonstances. Il y aura d'abord l'exposition du corps, en l'occurrence le mien, dois-je vous rappeler, qui sera vu par d'innombrables amis que vous n'avez jamais rencontrés de toute votre vie, dont je ne me souviens même plus moi-même, les ayant pour ainsi dire perdus de vue depuis des années, et qui passeront me saluer une dernière fois, et qui auraient été mieux avisés de venir aujourd'hui, ne pensez-vous pas? Il y aura aussi les simagrées du rabbin à la synagogue. Et permettez-moi de vous avertir que le rabbin pue du bec. Je le sais parce que c'était un de mes patients. Et je m'en veux de ne pas lui en avoir parlé avant, mais voyez-vous, il est un peu tard pour les mondanités. Puis, il va avoir la mise en terre, heureusement qu'il ne pleut pas, et le goûter, comme ça sera stipulé sur le carton d'invitation, à 5 heures précises. Je me demande bien pourquoi, vu que j'ai jamais été en retard de ma vie et que plus rien ne presse. Il va avoir aussi mon frère, votre oncle Jacob, qui immanquablement va rater son avion et qui va téléphoner de Wall Street pour demander si vous voyez un inconvénient majeur à ce qu'il remette sa visite à demain, mon Dieu, quelle horreur. Votre mère aura l'occasion de verser encore une fois une dernière bière sur je ne sais qui. Bref, dure journée. Je ne sais pas ce que vous allez faire, vous, après une telle journée. Mais moi, en tout cas, je vais me coucher de bonne heure. Louis, là, c'est mon meilleur ami. Il reste dans l'ancien appart de sa mère. Il partageait un appart avec sa mère. Ben, lui, il restait chez elle, finalement. Sa mère, là, elle était sourde puis paralysée. C'est au lit. L'an passé, Louis, il a piqué son appareil auditif à sa mère, puis il l'a vendu. « Hey, c'est pas toute chose à mon âge, là, d'être obligé de rester à la maison pour m'occuper de ma vieille mère. Faut bien payer le loyer, puis manger des fois, puis prendre quelques bières de temps en temps, tu sais. »
Ouais.
Toutes les pièces de l'appart chez Louis sont toutes vides, sauf la chambre. Parce que Louis, quand sa mère était encore vivante, là, ben Louis, il a tout vendu les meubles, un par un, là. Les meubles des pièces à gauche de la chambre de sa mère, tu sais, les meubles qui pouvaient sortir par la porte d'en arrière, là, sans qu'elle s'en aperçoive. Puis après, de l'autre côté, les autres meubles par la porte d'en avant. Comme ça, elle n'a rien vu, pas rien entendu. Elle n'a pas eu de peine. Quand il n'y a plus rien à vendre, ben, elle est morte. Il n'y a pas de coïncidence. Moi, je repense toujours à ça quand je vais chez Louis, ça me fait toujours rire. Fait que j'arrive chez Louis, sa sœur est en train de se bercer sur le balcon. Pauvre Joanne. C'est comme ça qu'elle s'appelle elle-même. À force d'entendre les autres, elle pense qu'elle s'appelle Pauvre Joanne. Elle sort encore de l'hôpital. Bonjour, Pauvre Joanne.
Ils m'ont volé ma tête.
Elle tient une vieille photo d'elle dans ses mains. Faut dire qu'elle a changé pas mal.
Ils m'ont volé mes yeux.
Pauvre Joanne. Souvent, je lui demande, quel jour on est aujourd'hui, Pauvre Joanne? Elle répond toujours, dimanche prochain. Ça fait rire tout le monde. Elle aussi. Les fous, ça rit de leur folie, ça, mais c'est juste nous autres, les fins, des fois, on essaie toujours de faire nos maths. Hein? Chez Louis, là, les pièces sont toutes vides dans l'appart, mais même les murs, il n'y a rien, ces murs. Ah, c'est propre. C'est éco en masse. C'est la meilleure place pour chanter. Des fois, on se rassemble 3-4, là, avec une caisse de 24, puis on chante. C'est le fun. Il a allumé la TV dans la chambre. C'est dimanche pour vrai. Ça fait qu'on entend la musique de la messe à la TV. Pauvre Joanne, elle aime ça beaucoup, la messe à la TV. Elle. Mais pas longtemps, par exemple. Quand elle tient plus en place, là, Louis, il met une cassette de rock, ou ben non, il met une cassette d'Elvis, ou ben il fait coller des petites antennes en plastique à des petits papillons de bricolage. Tu sais, avec Pauvre Joanne, là, je vous dis, il faut en avoir de l'inspiration.
Ils m'ont volé ma tête.
Louis, il me dit, ils ont dû changer ses médicaments, à part l'hôpital. Je sais pas ce qu'ils font. À chaque fois qu'elle y va, c'est pareil. Elle revient tout à l'envers. Ça va me prendre encore un mois pour m'occuper d'elle. Je peux même pas la renvoyer au foyer. Elle n'est pas endurable. 46 ans, chose. 46 ans, puis pas capable de s'occuper d'elle. Ben là, moi, je reste encore quelques minutes, mais je sors parce que... Ah oui, il aime pas ça. Il aime mieux tout seul avec sa soeur, finalement, quand ça va pas bien.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique.
Là, je passe plusieurs jours à me promener à gauche puis à droite. Tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire. D'un coup, je rencontre la police. Ça, c'est mon nouveau chum. Donc, la police, on l'appelle la police. On se voit souvent, lui puis moi, à cette heure. Je pensais jamais que je pourrais être ami avec une police. Mais ça, c'est une autre histoire, hein? Ben, une autre fois, donc, peut-être une autre fois. La police, puis moi, des fois, on va chez Louis. Des fois, on va chez Pierre. Pierre, c'est le plus bizarre. Donc, lui, il est bizarre. Il paraît qu'une fois, là, une fois qu'il était à la pêche, là, il est tombé en bas de la chaloupe. Mais là, au lieu de s'énerver tout comme, puis gigoter comme un maudit fou, là, ben, il a marché au fond du lac jusqu'au bord. Oh, ouais. La police, lui, il trouve des drôles d'amis. Lui, ses amis, ben, sont encore dans la police. Ben, il les voit plus tellement depuis que lui est sorti, faut dire, là. Il boude. Sa femme aussi, elle boude. Ma femme n'a jamais compris pourquoi j'étais dans la police. Là, à cette heure, elle comprend pas pourquoi je suis plus dans la police. Moi, je la comprends-tu, elle? Puis, je l'aime. S'il fallait toujours tout comprendre, baptême, on n'en sortirait jamais. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Pierre, il est pas dans son assiette aujourd'hui. Ça paraît. Il y a un petit racket d'ordinateur volé, puis ses clients n'arrêtent pas de chialer quand ça plante. Ben là. Quand on va chez Pierre, la police, il dit toujours ça. Ben là, puis il branle la tête, là, tu sais. Pierre, dans ce temps-là, il dit toujours que la police branle le chef. Là. C'est un gars. Ben là, t'es pas obligé de faire le service après-vente, Baptiste. Vous autres, les criminels, vous en faites toujours trop. C'est pour ça que vous vous faites pincer. C'est vrai, j'ai des drôles d'amis, hein.